Alors bonjour, pour ceux qui sont ici, on s'est presque tous déjà frotté le coude ou le poing, et ceux qui sont derrière leurs écrans. J'aimerais continuer en fait ce que j'ai abordé la semaine dernière, c'était la fête des mères, et puis on a parlé du fait de porter la vie et donner la vie. Jésus qui est la source de vie, mais nous on est appelés à la recevoir, à la porter, à la laisser... avoir une période de gestation en nous aussi, et puis après, on va pouvoir la redemander. Puis c'était beau parce que je ne savais pas qu'ils allaient faire cette annonce, enfin je savais, mais pas ce jour-là. À la fin de notre rassemblement, Sophie et Benoît sont venus annoncer officiellement que Sophie portait un bébé. Puis je trouvais que c'était, c'était très beau avec ça. Alors, j'aimerais continuer, mais vous allez voir, le titre a l'air d'être, de ne pas être la suite, mais c'est la suite. J'aimerais parler du fait de tourner le dos à nos citernes crevassées. Alors, vous allez voir. Donc, porter la vie, donner la vie, comme on l'a vu, ben, il faut la recevoir de Dieu. Et pour la recevoir de Dieu, il faut aller la chercher jour après jour et des fois moment après moment. Et nous, les humains, on n'aime pas dépendre des autres, on n'aime pas dépendre de quelques... On aime avoir notre autonomie, et puis, et peut-être particulièrement en Suisse, on aime avoir des provisions, des réserves. Hein. Avant que je vienne vivre ici, un ami qui était suisse m'a dit, quand un Suisse dit qu'il est ruiné, c'est qu'il doit commencer à toucher à ses réserves. Mais tous les humains sont comme ça. Hein. On veut bien avoir juste une semaine, mais une semaine d'avance. Hein. Et on sait, on devrait savoir depuis longtemps, et notamment depuis l'épisode de la manne dans le désert, qu'avec Dieu, ce n'est pas possible de faire des provisions. Pourquoi ? Parce que le nom même qui traduit la nature de Dieu, c'est « je suis ». Donc Dieu est au présent, et Dieu est ni dans le passé ni dans le futur, même s'il a agi dans le passé, il agira dans le futur. Mais la nourriture réelle, l'eau de vie, cette vie que nous sommes censés accueillir, recevoir et puis à un moment redonner, elle se trouve qu'au présent. Et dans l'Ancien Testament, déjà par le prophète Jérémie, Dieu fait ce reproche à son peuple. Et je vous lis le texte. Il est connu, Jérémie 2, 13. Et il dit, « Car mon peuple, c'est Dieu qui parle, a commis un double mal. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Alors, il faut se rappeler qu'Israël est un pays quand même chaud, sec. Oui, il y a des endroits, il y a des ruisseaux, mais il n'y en a pas partout. Donc, une des solutions que les êtres humains ont développées, ben, c'était de creuser des citernes, enfin, ou de construire des citernes pour récupérer l'eau de pluie ou pour stocker l'eau. Et bien sûr, l'eau qui est stockée, surtout dans un pays chaud et dans les conditions où les citernes étaient faites à l'époque, c'est de l'eau qui très vite, si on voulait boire, on mangeait aussi. Il y avait des protéines animales dedans, des petits têtards, et puis de la vase, et puis enfin, c'est pas de la bonne eau fraîche, vive, comme on peut trouver dans un torrent, dans une source, etc. Et donc le prophète qui parle de la part de Dieu utilise cette image en disant, vous avez commis un double mal, hein, un double péché dans les vieilles traductions, c'est la même chose. Vous m'avez abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour vous creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Alors, c'est une stratégie qui est toujours utilisée aujourd'hui par l'ennemi de nos âmes, hein, nous encourager à creuser des citernes plutôt que de dépendre d'une source. Normalement, si on s'en tient au cinquième évangile, qui est le Petit Prince, ce qu'on devrait faire, c'est marcher lentement vers la source tous les jours, hein, plutôt que d'essayer de trouver un moyen de ne plus avoir soif, avec des pastilles qu'on avale pour ne plus avoir soif, ou de construire des citernes. Et c'est quelque chose qui est très très efficace parce que ça correspond à ce que l'être humain sans Dieu veut. Si j'ai ma citerne, si j'ai des réserves, eh ben au moins, voilà, je n'ai pas à être dans l'inquiétude pour demain, je n'ai pas à dire à Dieu, donne-moi aujourd'hui mon eau quotidienne et mon pain quotidien, ma réserve est pleine, alors quand elle sera presque vide, ben je pourrais m'inquiéter et aller prier pour que Dieu la remplisse. Et puis de nouveau, j'aurai une période de répit parce qu'elle est pleine et je pourrai respirer un peu. Entendez par respirer, je ne vais plus avoir besoin tous les jours de dépendre de Dieu et de lui courir après et d'essayer de le chercher, de jamais savoir quand c'est que ça va arriver et comment ça va arriver. Ce qui est la définition même de vivre par la foi. Et donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien, cette tendance à creuser des citernes, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est creuser des citernes, c'est une activité respectable. C'est pas comme les gens qui mènent une vie, ce qu'on appelle dépravée. Alors tout le monde, c'est pas bien, il court après ça, et puis il fait ça, et puis il aime ça, et puis il est malhonnête, et puis il abuse sur ça, et sur ses produits, et ces choses-là. Okay. Mais construire une citerne pour avoir des provisions, c'est respectable, c'est honnête, c'est sérieux, c'est du travail, etc. Donc ça passe mieux, parce que là, ce texte, il s'adresse à des croyants, Pour les gens qui ne connaissent pas Christ, il y a une seule chose, ils doivent connaître Christ, c'est tout. Il n'y a pas à faire plus de bien, plus de mal. Mais pour nous, les enfants de Dieu, pour ceux qui sommes supposés être les citoyens du royaume de Dieu et de le manifester sur terre, si nous sommes occupés à creuser des citernes, nous pouvons facilement oublier le reste. C'est une activité qui prend du temps, et qui occupe les pensées. Et avec des choses qui ont l'air bien. D'ailleurs, on fait des plans pour Dieu, on fait ci, on fait ça, on promeut des belles choses, on fait des choses sérieuses. Mais on est occupé avec des choses à faire, et on ne s'aperçoit pas que notre vie intérieure est sèche et vide. Et c'est une course en avant qui est, pour ne pas s'apercevoir que c'est vide, alors il y a une autre activité qui m'empêche de penser que c'est vide, jusqu'à la prochaine activité, et puis on est comme le hamster qui court dans sa roue. C'est une activité mauvaise qui se nourrit par elle-même, parce que pendant que je creuse ma citerne, je suis trop occupé pour prendre le temps d'aller boire à la source. Et donc, je continue de la creuser pour oublier que j'ai soif, au lieu de s'arrêter et de prendre le risque et de dire « j'abandonne cette citerne-là, je vais marcher jusqu'à trouver la source ou je vais mourir de soif. » Mais au moins, je vais aller dans la bonne direction. Et puis, creuser des citernes, c'est une activité concrète dans le monde visible. C'est quelque chose qui se voit, On a des projets, on a des plans, on a des stratégies, il y a des chiffres, il y a des nombres, il y a des résultats, il faut de l'argent, il faut ci, il faut ça, il faut s'engager. Et tout ça, c'est beaucoup plus facile que lorsqu'on essaie de parler de la vie intérieure, de ce royaume dont Jésus a dit, il est au milieu de vous, mais il ne vient pas de manière à frapper les regards. Il est là, mais on ne le voit pas. Et c'est quand même difficile d'être les ambassadeurs d'un royaume qui ne se voit pas. Parce qu'on se sent un petit peu comme, quand on croise ces gens qui vous parlent des extraterrestres, oui, ils les ont vus, et puis, oui, bon, d'accord, c'est gentil. Mais voilà. Nous, on est les citoyens d'un royaume qui ne se voit pas. Celui qui est notre roi, il paraît qu'il a vécu sur terre, mais c'était il y a 2000 ans depuis, on ne l'a plus revu. Il n'y a pas grand-chose de visible là-dedans. Alors que construire des citernes pour faire des provisions, j'en profite pour faire un petit rappel, ça fait longtemps que je n'ai pas ressorti ma parabole du chat et du cochon. Je ne sais pas si vous en rappelez, j'utilisais ça avec les enfants il y a plus de 30 ans, mais je l'aime beaucoup. et qui est pour nous rappeler la différence justement entre la religion, parce que creuser les citernes, c'est la religion, c'est ça, hein, et puis la vie avec Dieu. Si vous prenez un cochon, un petit cochon, c'est, ça boit de mignon, un petit cochon, hein, si on le lave et qu'on le nettoie, c'est même à la mode, il y a des gens qui, célèbres qui avaient des petits cochons dans leur maison, et que vous voulez l'éduquer pour qu'il soit propre, alors c'est un travail qui ne finit pas, la seule façon de le garder propre, c'est de l'obliger à vivre dans un endroit où il n'y a pas de saleté. Donc on contrôle l'extérieur. Ben, c'est vrai que si vous gardez un cochon dans votre salle à manger, alors lui, il va vous faire des saletés, mais il ne va pas trop se salir. Hein. Mais dès qu'il aura la possibilité, lâchez-le dans la nature, ou s'il peut s'échapper, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, de suite, il va se vautrer dans la boue, parce que c'est ce qu'il aime, c'est sa nature profonde. Hein. Et la religion essaie d'éduquer le cochon. Alors c'est très à la mode hein, comme thème, parce que voilà, on pourrait dire « arrêtez d'être religieux, balance ton porc ». Et la vie nouvelle, c'est pas éduquer le cochon, c'est recevoir la vie de Christ. Et la vie de Christ, c'est comme la nature d'un chat. J'aime pas spécialement les chats, honnêtement, en plus. Hein. J'ai un chien, mais mon jardin est envahi de chats. Et je suis toujours, puis j'en ai quand même eu dans le passé, je suis toujours impressionné par la façon dont un chat peut marcher, même dans un endroit sale, sans se salir. Hein. Ça saute la petite flaque, ça passe là, pof, ça grimpe là, pop, 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 pop. Et s'il y a une petite goutte de quelque chose, immédiatement, ça s'arrête. Vous ne pouvez pas me voir lécher parce que j'ai le masque. Il lèche, hein, voilà. Un chat, c'est propre par nature. Alors oui, on peut dire sa maman lui apprend, mais même si vous récupérez un chat tout petit et puis que vous le faites grandir avec une portée de cochon, je ne sais pas si c'est possible, hein, il va être propre en grandissant. Et si vous demandiez à une chatte d'élever un bébé cochon, bah, quand il va grandir, il aimera quand même se rouler dans la boue. Hein. Voilà. La religion, elle veut éduquer le cochon. Alors, ben, si tu vas pas là, si tu fais pas ça, 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 et puis elle est toute fière. Regardez, mon cochon est propre. Il est propre. Lâche-le 2 minutes tout seul, tu vas voir s'il est propre. Non, juste on l'a empêché de manifester son goût pour la saleté. Tandis que le chat, on peut le lâcher n'importe où. Ben, le chat, il est voilà. Et c'est exactement de ça qu'on parle. Est-ce que tous les jours, je vais recevoir la vie du chat pour vivre une vie propre? Parce que cette vie-là, elle n'est pas naturelle en moi, c'est celle de Christ. Alors oui, je l'ai reçue à la nouvelle naissance, mais j'ai besoin de cette source d'eau vive. Et on va s'apercevoir comment dans nos vies, Dieu va permettre, ou même des fois provoquer, que nous perdions des choses qui sont des repères visibles, solides, pour nous permettent de découvrir la réalité invisible. Et c'est là que je rejoins le thème de notre week-end, qui est l'ascension. Lorsque Jésus était avec ses disciples, alors jusqu'à sa résurrection et même jusqu'à ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, ils n'avaient vraiment pas compris grand-chose. Ouais, ils savaient qu'il était particulier, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut marcher sur l'eau, ressusciter des morts et guérir les malades. Mais ils avaient tellement une vision de qui il devrait être, qu'ils n'ont pas vu qui il était. Et ça, c'est un de nos grands soucis en tant qu'être humain. Hein. On veut une solution, mais on sait à quoi elle ressemble. Et puis, elle n'arrive jamais, cette solution, parce qu'en fait, ce n'est pas celle-là qu'il faut. Hein. Vous avez une vis à placer quelque part, et vous attendez un marteau. Et puis, Dieu vous tend un tournevis. Et puis, vous, non, ce n'est pas facile de taper avec un tournevis. Vous cherchez un marteau. Il dit non, c'est un tournevis qu'il faut. Hein, voilà. Ils attendaient quelqu'un qui allait mettre les Romains dehors, restituer la grandeur d'Israël, devenir un roi, etc., etc. Et Jésus était la solution, mais qui était autre. Et juste avant qu'il soit enlevé, les textes que Catherine nous a lus, dans l'évangile de Jean, il parle avec ses disciples, et Jésus dit ceci. « Cependant, je vous dis la vérité, » au verset 7, Jean 16, 7. « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et au verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Bien évidemment que les disciples, et nous pareil, si on avait vécu à cette époque-là et qu'on était à leur place, auraient aimé que Jésus reste sur terre avec eux, le plus longtemps possible. Le temps qu'il ait pu former des gens, former une école, écrire des livres, mettre des cours en place, expliquer ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, comment il fallait le faire. Et puis, avant d'un jour partir ou mourir, alors là, il aurait désigné son successeur pour continuer. Et Jésus, il s'en va, j'allais dire sans prévenir. Il a prévenu, mais personne n'a compris. Il s'en va, on dirait qu'il n'y a rien qui est terminé. Il a passé 3 ans avec 12 bonhommes qui n'ont rien compris. Mais il leur dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Et maintenant, je mets les deux sujets que j'ai abordés ce matin en lien l'un avec l'autre. Il est avantageux pour nous que nos citernes s'effondrent. Parce que tant qu'on travaille dessus, tant qu'on a de l'eau pourrie, mais c'est quand même de l'eau, tant qu'elles sont là, eh ben, on fait avec. C'est pas génial la religion, mais c'est quand même quelque chose. Mais on doit découvrir que cette parole de Jésus, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Elle est bonne, elle est belle, elle est vraie, mais elle n'est pas facile. Parce que nous, on aurait préféré qu'il reste là, qu'on le voit, qu'il nous dise à chaque fois, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Va là, ne va pas là, fais comme ci, fais comme ça. Et là, il s'en va, et puis il nous dit, je vous confie un royaume invisible. Je vais vous envoyer mon esprit. Et puis, il va être en vous, et il vous conduira dans la vérité. Ouais. Tu ne pourrais pas plutôt nous dire, là, bon, okay, y a les lois avant, ce n'était pas bien, mais en faire une nouvelle simple. Ça, on peut, ça, on peut pas, ça, on a le droit, ça, on n'a pas le droit, ça, il faut pas. Le lundi, pas le dimanche, le mardi, pas le jeudi, ça, on mange pas. Hein. On n'y arrive pas toujours, mais au moins on sait ce qu'on doit faire. On a nos citernes, on a nos provisions, on sait à l'avance, on peut prévoir. Et Jésus dit, non, je suis la source, trouvez-moi. Ouais, mais où tu vas? On ne doit pas. Ah ouais, ça ne se voit pas. Hein. L'essentiel est invisible pour les yeux. Mais il faut chercher, mais c'est là. Hein. Ceux qui sont connectés avec ma vie, des fleuves d'eau vive couleront d'eux-mêmes. Oui, mais ça veut dire que tous les jours, je vais devoir recommencer de zéro. Eh oui, il n'y a pas de disque dur qui stocke les choses dans la vie spirituelle. On dort, on se réveille le matin et il faut tout recommencer. Alors, pas tout. Ce qu'on sait, on le sait. Ce qu'on a vécu, on l'a vécu. La mémoire des beaux souvenirs, c'est magnifique. Ce sont des cendres saintes qu'on doit porter hors du camp. Hein. Mais dans la réalité, le pain d'hier, on ne veut pas savoir ce qu'il est aujourd'hui. Hein. Puis le pain de demain, il ne nourrit pas non plus. Et j'ai besoin aujourd'hui de prendre le risque d'abandonner mes citernes. Hein. Alors, je pense que chacun d'entre nous pourrait y mettre ce qu'il veut dedans. Hein. Pour certains, c'est leur réputation. Pour d'autres, c'est ce qu'ils font pour Dieu. Pour d'autres, c'est... Peu importe, mais ça nous tient occupés, c'est nos projets, c'est plein de choses. Et de réaliser ce « il est avantageux pour vous que je m'en aille hein, », c'est difficile. Je trouve que c'est quelque chose qu'on a très bien vu pendant ces temps spéciaux, pénibles, que j'aime pas plus que vous. Hein. Mais lorsque, le premier confinement qui était assez strict, faisait que, et c'est encore le cas aujourd'hui, la plupart de ce qu'on appelait les activités d'une église n'existaient plus. Hein. On ne peut plus chanter dans une chorale, on ne peut plus répéter de la musique, on ne peut plus, on peut même plus se retrouver, on ne peut plus aller faire des camps avec les enfants. Là, là. Et quand tout ça disparaît, qu'est-ce qui reste de ma vie d'enfant de Dieu ? Mais moi, je crois que pour un temps, c'était avantageux que ces choses s'en aillent. J'espère que ça va revenir, hein, si elles sont réelles. Mais c'est difficile, parce que tout d'un coup, je m'aperçois, ma vie est vide. Oui, mais avant, elle était peut-être aussi vide, juste tu ne le savais pas. Hein. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui m'empêche de trouver Christ ? Ben rien. C'est pas la maladie, c'est pas le confinement, c'est pas la peur, c'est pas ci, c'est pas ça. Alors oui, ce qui manque réellement, c'est la communion fraternelle qui fait partie des éléments très importants que Christ a laissés. Hein. On voit entre ce moment où Jésus dit écoutez, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Hein. Justement, la seule chose qu'ils avaient concrète à faire, c'était de rester ensemble. Et ils étaient tous les jours ensemble. Hein. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose d'important et qu'il ne faut pas perdre. Mais de ne pas l'avoir pendant un moment, c'est peut-être bien pour réaliser à quel point c'est essentiel. Mais en dehors de ça, nous avons tout ce qu'il nous faut. Il est avantageux que vous n'ayez pas trop de béquilles. Il est avantageux pour vous de ne pas vous appuyer sur ce que vous savez faire, sur ce que vous maîtrisez, sur vos projets bien établis, avec un calendrier, etc. Même si ces choses-là ne sont pas mauvaises. Hein. Mais nous avons besoin de retrouver cette source d'eau vive. Et ben, c'est ce qui s'est passé. Christ est parti et puis il a envoyé son esprit. Et on a fêté l'Ascension, mais on va fêter la Pentecôte. Ça, c'est vraiment une grande, grande fête. Hein. C'est l'anniversaire du corps de Christ, de l'Église. Le début réel de Christ sur terre par nous, par son esprit. Donc, ça sera pour une prochaine fois, très bientôt. Mais voilà, rappelons-nous ceci. Nous sommes porteurs de vie. Nous devons avoir cette vie en nous. Mais pour la porter, il nous faut accepter de perdre les choses visibles pour entrer dans celles qui ne se voient pas et aller en profondeur là-dedans et puis pouvoir recevoir de Christ et abandonner la réfection de nos citernes parce que c'est quelque chose qui va nous épuiser et utiliser toutes nos vies. Hein, et puis voilà, on est tellement occupé qu'on ne s'en aperçoit pas. Et puis c'est un cercle vicieux, on tourne en rond. Alors, arrêtons d'essayer d'éduquer le cochon, accueillons le chat, recevons cette nature propre, et puis allons boire, et des fois c'est difficile. Je parle de ça parce que cette semaine j'ai eu quelques journées difficiles, mais difficiles, il n'y avait pas de raison que ce soit difficile, tout allait normalement dans ma vie. Mais je voyais à quel point, justement, il n'y avait pas d'eau à l'intérieur, je n'avais pas la vie, et à quel point j'étais tenté de juste ne pas y penser en m'occupant avec une citerne ou avec une autre. Hein. Et de dire non, je ne vais pas juste ouvrir un livre, je ne vais pas juste allumer Netflix, je ne vais pas juste appeler quelqu'un et parler de banalité, je ne vais pas juste m'occuper à travailler un peu plus sans rien réfléchir. Non, ce vide est là, ma citerne, elle est crevassée, elle est vide, et c'est bien que je ressente ce manque. Parce que, ben voilà, je vais partir dans le désert et je vais marcher. Et je vais marcher lentement jusqu'à ce que je trouve la source. Et si je meurs en la cherchant, tant pis. Mais je ne veux pas me contenter de l'eau avec de l'algue dedans et des petites saletés. Mais qu'est-ce que c'est difficile ? Je ne sais pas pour vous, mais qu'est-ce que c'est difficile ? Et j'ai beau le savoir et l'expérimenter encore et encore, mais qu'est-ce que c'est difficile ? Et c'est pour ça que c'est tellement rassurant d'avoir, bon ok, je vais chercher la source, mais j'ai ma citerne, au cas où et je ne vais pas trop loin, comme ça je peux vite y retourner. Hein. Non, on laisse derrière, il est avantageux pour nous que ceux qui nous rassurent naturellement disparaissent. Ah, j'aime pas ça, mais c'est ce qui est bon, hein. Et parce que voilà. Et donc dans cette recherche de s'approcher de Dieu pour recevoir la vie, alors on va découvrir le ministère du Saint-Esprit, puis ça sera pour la prochaine fois. Seigneur, merci parce que tu es le seul qui peut combler notre soif, mais on ne peut pas t'acheter, on ne peut pas te posséder, on ne peut pas t'enfermer, on ne peut pas te faire des provisions de toi pour le futur. On doit accepter de te chercher jour après jour et de finalement s'abandonner à toi, de consentir à ta présence quand finalement, on te rencontre et tu sais remplir nos cœurs. Tu es le seul qui peut étancher notre soif, Seigneur. Alors, fais-le encore aujourd'hui, Seigneur. Tu connais chacun de nos cœurs, chacun de nos dispositions. Tu connais nos situations de vie. Et nous te demandons que tu nous aides dans cet apprentissage, cette aventure de toute notre vie, d'abandonner nos provisions naturelles pour te chercher, toi, la source d'eau vive. Et avec tous les risques que ça comporte, mais avec toute la plénitude que ça peut apporter, Seigneur. Merci de tout notre cœur. Amen.